الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue maintenant notre cours dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, écrit par le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liq al-Qawim ala kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc le cours 107, on continue l'explication. Maintenant, après avoir mentionné l'ijma des Sahaba, il mentionne maintenant la position des quatre imams, des quatre madhahib, des madhahib de Ahlus Sunnati wal Jama'a, le madhahib de l'imam Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i et de Ahmad. Et on a parlé au dernier cours un petit peu des positions des Ahnaf, les ulama du madhhab al-Hanafi, et on n'a pas terminé d'expliquer ça. On continuait dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan de certains des propos justement des ulama et des imams de ce madhhab, des shuyukh, des élèves de Abu Hanifa, et les positions des ulama de ce madhhab. Puis ensuite, on va passer aux positions du madhhab al-Maliki tout de suite après, et celle de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmad par la suite. Donc aujourd'hui, bien entendu, on n'aura pas le temps de voir tout ça, mais on va avancer un petit peu dans les exemples. Il dit wa qawluhu. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le cheikh? Il cite dans les paroles des ulama des différents madhahib des paroles et des propos qui indiquent que la question de se distinguer des mushrikin et de contredire les kuffars et de ne pas les imiter, il montre des citations qui indiquent que pour les imams de ces madhahib, c'est un principe et c'est une règle dans la sharia que on doit ne pas les imiter et qu'on doit les contredire. Et il montre les preuves et les citations dans les livres des fiqh de ces différents madhahib, et que c'est une question sur laquelle ils sont tous d'accord. Donc on continue à partir du point où on avait laissé au dernier cours. Il dit Cheikh Al-Fawzan, il dit wa qawluhu wa qalu fi ta'lil al-man'i min libas al-hariri في حجة أبي يوسف، يعني أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن خالف إمامهما أبا حنيفة في مسائل، منها استعمال الحرير ولبس الحرير، لأن فيه تشبها بالجبابرة من الأكاسرة وغيرهم، فليس النهي عن لبسه فقط، بل يشمل سائر الاستعمالات للرجال لما في ذلك من التشبه وهذا علة عامة. Donc il dit ici que la parole de Ibn Taymiyyah, quand il dit que à propos de Abu Yusuf et Abu Muhammad, Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan, les deux grands élèves de Abu Hanifa, ils ont dit dans la raison pour laquelle on a interdit de porter les vêtements de soie. Il dit que Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan ont contredit tous les deux leur imam, c'est-à-dire ils ont contredit Abu Hanifa dans plusieurs questions. Et parmi les questions dans lesquelles ils ont contredit leur imam et leur cheikh, c'est la question de l'utilisation de la soie et de porter de la soie, parce que ils ont mentionné que c'est parce que c'est une imitation des tyrans parmi les rois de Perse, les Persans, et d'autres également. Et donc, l'interdiction n'est pas seulement de porter de la soie, mais que cela comprend toutes les utilisations pour les hommes, à cause de la ressemblance qu'il y a dans le fait de l'utiliser. Donc ça, c'est une raison qui est générale. La raison d'interdire quelque chose parce qu'il y a dans cette chose une imitation avec les kuffars, ça c'est une raison dans la sharia qui est générale. Donc on a vu ici un autre exemple. Après il dit wa qawluhu qala Umar radiyallahu anhu iyyakum wa zay al-a'ajim wa hadha tahdhir min al-Faruq min libs zay al-a'ajim لأن في لبسه تشبها بهم وهذه قاعدة أن كل ما كان من زي الأعاجم مختصا بهم فإن على المسلم فإن كل ما كان من زي الأعاجم مختصا بهم فإن على المسلم أن لا يتشبه بهم فيه لأنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Donc ici Cheikh Al-Fawzan il dit que la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, quand il dit que Omar radiyallahu anhu a dit prenez garde aux modes ou aux vêtements des étrangers, c'est-à-dire les non-musulmans, les kuffars, les mushrikin. Et il y a dans ça un avertissement de la part de Omar Al-Farouq, le deuxième khulafa parmi les khulafa al-Rashidin, il y a un avertissement de sa part de porter les mêmes vêtements que les mushrikin et les kuffars. Et il dit que dans le fait de s'habiller d'une manière semblable à leur façon de s'habiller, il y a une imitation dans ce cas-là des kuffars et des mushrikin, et que ça c'est une règle, et que tout ce qui a rapport avec les vêtements ou l'apparence ou l'imitation des modes qui sont spécifiques et particulières aux mushrikins et aux kuffars, le musulman n'a pas le droit de les imiter dans ces choses-là, parce que ça rentre dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, c'est-à-dire quiconque imite ou ressemble ou essaie d'imiter un peuple, alors il est un des leurs. C'est comme s'il devient un des leurs en les imitant. Et il dit wa qawluhu wa qala Muhammad fi al-jami' as-saghir la yatakhattam illa bil fidda qala Muhammad ibn al-Hasan huwa sahib hanifa Muhammad ibn al-Hasan sahib Abu Hanifa qala la yatakhattam إلا بالفضة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتختم بالذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التختم بالذهب على الرجال وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ثم أخذ الخاتم من الرجل وطرحه أرضا أما التختم بالفضة فهو مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة وكذا التختم بغير الذهب من المعادن النفيسة لا مانع منه لأنه لم يرد فيه نهي كالأحجار الكريمة من الألماس وغير ذلك أما التختم بالحديد فمكروه كراهية التنزيه لأنه حلي أهل النار فالحاصل أن التختم على أنواع التختم بالذهب للرجال حرام بالإجماع والتختم بالفضة مباح بالإجماع والتختم بالمعادن النفيسة غير الذهب والفضة حلال بناء على الأصل والتختم بالحديد والتختم بالحديد والصفر ونحو ذلك مكروه والتختم بالصفر فيه تشبه بعباد الأصنام بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يزوجه وطلب منه المهر فلم يجد عنده شيئا قال له التمس ولو خاتما من حديد فدل على جواز التختم بالحديد. Le Cheikh il dit que يعني محمد Cheikh Al-Fawzan il dit que Cheikh Ibn Taymiyyah il dit dans ce passage ensuite que Muhammad dans Al-Jami' As-Saghir il dit, et on ne doit pas prendre une bague en argent. Une bague, hein, en argent. Et il explique, Cheikh Al-Fawzan, que Muhammad ibn al-Hassan, c'est le compagnon de Abu Hanifa. Tout à l'heure, on a mentionné qu'Abu Hanifa, il avait deux parmi ses deux plus grands élèves, c'était Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan. Ces deux-là, c'est les plus grands élèves, les deux plus grands élèves de Abu Hanifa. Donc, Muhammad ibn al-Hassan, le compagnon de Abu Hanifa, il a dit, on ne doit pas prendre une bague en argent. On ne doit pas prendre une bague excepté si elle est en argent. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, parce que c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas de bague en or, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter une bague en or pour les hommes. Et il dit wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'alaha fi yadihi. C'est rapporté dans l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous, quand il porte une bague en or, c'est comme s'il prenait un charbon, hein, un morceau de charbon brûlant, et qu'il la mettait dans sa main. Et puis il a pris la main de l'homme qui portait la bague en or, il lui a enlevé cette bague et il l'a lancée par terre. Hein? Le cheikh, il a cité ça seulement, il n'a pas mentionné la suite du hadith, mais on mentionne dans le hadith à la suite que les gens qui étaient présents à ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé la bague de la personne par terre, les gens lui ont dit, ne vas-tu pas ramasser ta bague? Ne vas-tu pas la ramasser? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je ne vais jamais ramasser quelque chose alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a jeté par terre. Et donc c'est pour dire à quel point les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam étaient obéissants aux règles et aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et comment ils étaient respectueux de ses ordres et de ses commandements. Ensuite, le cheikh, il mentionne que le fait de prendre une bague en argent, c'est permis, c'est quelque chose qui est licite, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait porté une bague en argent. Et il dit que de même que de porter une bague autre qu'en or parmi les métaux précieux, hein, ou bien les pierres précieuses, Il n'y a pas d'interdiction à cela non plus. Il dit parce qu'il n'y a pas d'interdiction spécifique qui a été rapportée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, comme les pierres précieuses, les diamants ou autres. Et il dit, en ce qui concerne le fait de porter une bague en fer, il dit que c'est quelque chose qui est détestable. C'est pas interdit, mais c'est détestable. Parce que c'est les parures des gens de l'enfer. Et il dit que, en résumé, on peut dire que en ce qui concerne le fait de porter une bague, il y a différentes catégories. Les bagues en or, c'est haram pour les hommes, et ça c'est selon le consensus de tous les savants de l'islam. En ce qui concerne le fait de porter une bague en argent, ça c'est permis selon le consensus des musulmans. Donc on a le droit de porter une bague en argent selon le consensus des ulama de l'islam. Ensuite, en ce qui concerne le fait de porter une bague qui est de pierres précieuses, hein, ou de métaux précieux, autre que l'or et l'argent, c'est permis par rapport au principe de base dans la charia, c'est-à-dire que tout est permis à la base, sauf s'il y a une preuve pour l'interdire. Al-aslu fil ashiya al-ibah, c'est ça la règle. Et il dit, en ce qui concerne le fait de porter une bague en argent, de porter une bague en métal ou en fer et en cuivre, il dit que ça c'est des choses qui sont détestables, parce que le fait de porter des bagues en cuivre, par exemple, il y a dans ça une imitation des idolâtres, des adorateurs d'idoles. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la bague en métal, ou en fer plutôt, la bague en fer, la preuve que c'est quelque chose qui est permis, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu donner une femme en mariage à un homme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que yani, s'il voulait l'épouser cette femme, qu'il devait trouver quelque chose à lui donner comme mahr, comme un cadeau de mariage. Et l'homme en question n'a rien trouvé à lui donner à cette femme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, cherche n'importe quoi, même une bague en fer. Hein? Même une bague en fer. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari selon Sahl ibn Sa'd. Et que le compagnon en question a donc cherché une bague en métal, et même ça il l'a pas trouvé. Donc c'est pour dire que ça c'est la preuve que de porter une bague en métal, hein, ou en fer, que c'est permis. Naam. Le cheikh il dit ensuite, wa amma madhhabu Malik wa ashabihi, madhhabu Malik wa ashabihi, ففيه ما هو أكثر من ذلك. Regardez qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. Il dit, en ce qui concerne le madhhab de l'imam Malik, Malik ibn Anas, il dit, dans son madhhab, le madhhab de Malik et de ses compagnons, eh bien, il y a des positions qui sont encore plus nombreuses que ça, et plus fortes que ça encore. Hein, donc ceux qui prétendent, hein, ceux qui disent, ah, nous on est des malikites, et qui pensent que ça veut dire que, yani, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, suivre leur passion. A'udhu billah, l'imam Malik, c'est un des imams parmi les imams des salafs, et qui était sur la aqidah et le manhaj des salafs salih. C'est même un des imams parmi les imams des salafs. Donc, celui qui pense que Abu Hanifa, il était sévère dans ces questions-là, alors attendez d'entendre les positions de l'imam Malik. Il était plus sévère encore. Et donc, ça c'est pour dire en même temps, pour réfuter ceux qui sont aujourd'hui parmi les soufis ou parmi les asha'ira, hein, et qui se disent malikites dans le fiqh, c'est pour prouver que ils se disent uniquement malikites comme ça, avec la bouche, mais la réalité, ils n'ont rien à voir avec l'imam Malik. Parce que l'imam Malik n'était ni soufi, il n'était pas non plus ash'ari, hein. Donc, de prétendre, quelqu'un qui prétend qu'il est maliki alors que sa aqida c'est la aqida al-ash'ariya, et sa voix c'est la voix de tasawwuf, hein, des turq soufiya, il n'a rien à voir avec l'imam Malik, hein, Allah al-musta'an. Donc ces gens-là, ils se disent maliki, hein, uniquement pour essayer de se cacher, hein, derrière le statut, hein, et la position de l'imam Malik, et se donner une crédibilité, alors que dans la réalité, yani, l'imam Malik n'a rien à voir avec eux. Le cheikh il dit donc, حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب وقال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق إلى حجر منفرد في الطريق يعني أكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما أحجار كثيرة فجائز وقال يكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد وقال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه قال أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس في حتى وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة. وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين، أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. Donc on vient de mentionner ici ou de lire ensemble certaines des paroles de l'imam Malik et de qu'est-ce qui a été rapporté dans son yani dans son madhab par les compagnons de l'imam Malik. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit en ce qui concerne le madhab de Malik et de ses compagnons, eh bien, il dit qu'il y en a encore plus d'exemples et de citations d'interdiction d'imiter les kuffars et les mushrikines et les juifs et les chrétiens, encore plus que dans le madhab al-hanafi. Et il dit que même que l'imam Malik, dans ce que l'imam Ibn al-Qasim a rapporté dans son livre Al-Mudawwana, et je sais pas si vous connaissez Al-Mudawwana, mais Al-Mudawwana c'est un des livres parmi les livres du Madhhab al-Maliki, les références du Madhhab al-Maliki qui sont parmi les plus importantes des références de ce Madhhab. Et en quoi ça consiste ce livre Al-Mudawwana? C'est un livre de plusieurs volumes, des questions qui ont été posées à l'imam Malik sur différentes questions dans le fiqh, et dans les ibadat et dans les aspects de la sharia. Et l'imam Malik il a répondu à ces questions là. Donc c'est ça Al-Mudawwana. Donc il dit, Ibn al-Qasim il a rapporté dans Al-Mudawwana qu'il est interdit de déclarer ou de prononcer l'ihram lorsqu'on va faire le hajj ou la umrah, de prononcer l'ihram en une langue étrangère autre que l'arabe. Et il dit, on ne doit pas non plus faire des invocations dans cette langue, dans une langue étrangère autre que l'arabe, et on ne doit pas non plus jurer lorsqu'on fait un serment dans une autre langue que l'arabe. Donc ça, c'était la position de l'imam Malik à ce sujet-là. Et il dit, et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a interdit de parler, c'est qu'est-ce qu'il mentionne ici, ratana al-a'ajim, c'est-à-dire de parler dans la langue, une langue autre que l'arabe. Donc l'imam ici, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que l'imam Malik a rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a interdit de parler dans une langue autre que la langue arabe, et il a dit innaha khibbun, en voulant dire que c'est quelque chose qui diminue quelqu'un. Et il dit wa qala wa akrahu as-salata ila hajarin munfaridin fi at-tariq. Il a dit l'imam Malik, je ne permets pas qu'on prie devant une pierre isolée sur le chemin. Comme si par exemple tu vas faire ta prière et t'es sur un chemin ou bien sur quelque part dans un espace quelconque et qu'il y a une pierre isolée, une pierre tout seule. Tu ne dois pas prier devant cette pierre-là toute seule. Tandis que si c'est plusieurs pierres qui sont éparpillées un peu, ça, il n'y a pas de mal dans ce cas-là de prier devant une pierre. Toutefois, s'il y en a juste une seule, isolé, il dit ça c'est interdit. Il dit pourquoi? Parce que comme si pour ne pas imiter les gens qui adorent les pierres. Et il dit wa qala wa yukrahu tark al amal. il est détestable de ne pas travailler le Jumu'ah, le jour de vendredi. Il dit parce que ça, c'est comme les actions des gens du livre, le jour du samedi et le dimanche. Hein? Les juifs, ils ne travaillent pas le samedi et ils ne travaillent pas le dimanche. Donc, il a dit, il est détestable de ne pas travailler le vendredi parce que c'est comme si, dans ce cas-là, on imite les juifs et les chrétiens qui, eux, le samedi et le dimanche, ils ne travaillent pas. Donc, ça veut dire que nous, on ne doit pas les imiter comme ça. Il dit ensuite également, il a dit qu'on dit, parmi les choses qui montrent l'exaltation et le respect d'Allah, hein, c'est le fait de respecter un musulman qui a des poils blancs dans sa barbe, ou bien qui a une barbe blanche. Le musulman qui a une barbe blanche, si tu le respectes, yani, c'est comme si c'est un signe de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et il dit, وَقِيلَ فَالرَّجُلْ يَقُومُ لِلرَّجُلْ. Donc, on lui a posé la question, est-ce que dans ce cas-là, on doit se lever pour quelqu'un d'important, quelqu'un qui a du savoir, quelqu'un qui a un mérite, quand il vient, est-ce qu'on doit se lever pour lui? Et l'imam Malik a dit, non, je déteste cela. Hein? Et il dit, il n'y a pas de mal de lui faire de l'espace et de d'élargir l'assise, hein, l'endroit où on est assis, pour lui faire de la place, ça oui. Mais de se lever pour lui, non. Et il a dit également, une femme qui se lève pour son mari, il dit, une femme qui se lève pour son mari, hein, pour qu'il puisse s'asseoir, il dit, ça c'est l'agissement des tyrans parmi les non-musulmans. Hein. Et il dit, peut-être qu'il y a des gens qui l'attendent, et lorsque quelqu'un arrive, par exemple, eh bien, il se lève par respect pour lui. Il dit ça ne fait pas partie des actes de l'islam, de se lever par respect pour quelqu'un. Et il dit que ça fait partie de ce qui a été interdit parce que c'est une imitation des gens du livre et des non-musulmans de différentes origines. Il dit « وَفِيمَا لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ » Hein? Donc ça fait partie de ce qui ne fait pas, ça fait pas partie des actes des musulmans d'agir de cette façon-là. Et il dit que ça c'est encore plus sévère, hein, que les actions des gens de Koufa, de la ville de Koufa, parce que eux ils exagéraient beaucoup dans cette question-là. Même que les compagnons de Abu Hanifa, il considérait même de déclarer mécréant la personne qui imite les koufars dans leur façon de s'habiller et dans leur célébration. Maintenant, le cheikh Al-Fawzan, il va commenter sur chacun des points qu'on a mentionnés maintenant dans cette parole de Ibn Taymiyyah. Il dit amma qawluhu wa amma madhhab Malik wa ashabihi fa fihi ma huwa akthar fa madhhab al-Malikiyya يحرمون أن يحرم الرجل بالأعجمية يعني أن يتلفظ بالإحرام باللغة الأعجمية بدلا من اللغة العربية وهذا في الذي يحسن العربية فلا يجوز له أن يعدل إلى غيرها أما الذي لا يحسن العربية فإنه يحرم بلغته وكذلك لا يدعو باللغة الأعجمية وهو يحسن العربية وهو يحسن اللغة العربية لأن العربية هي لغة الشرع فلا يجوز أن يدعو بغيرها إن أمكنه ذلك. Donc le Cheikh Ibn Cheikh Al-Fawzan, il dit que, donc par rapport à la parole de Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit que dans le madhhab al-Maliki et de ses compagnons il y a encore plus d'exemples de ça, il dit que le madhhab al-Maliki interdit même à quelqu'un de faire l'ihram ou de rentrer en ihram dans une langue autre que l'arabe, c'est-à-dire de prononcer l'ihram, labbayk allahumma umrah ou labbayk allahumma hajjan. Hein? Le madhhab al-Maliki l'interdit de prononcer l'ihram dans une langue étrangère autre que l'arabe. Et ça, le Cheikh Al-Fawzan, il dit ça, c'est particulier, bien entendu, à celui qui ne maîtrise pas ou qui ne connaît pas bien l'arabe. Hein? Mais tandis que celui qui connaît l'arabe, ce n'est pas permis pour lui de prendre une autre langue ou de parler dans une autre langue pour prononcer l'ihram, alors qu'il connaît l'arabe. Mais s'il ne connaît pas l'arabe, alors il peut prononcer l'ihram, hein, ou déclarer l'ihram dans sa langue maternelle. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. S'il ne connaît pas l'arabe, il n'y a pas de problème. Il dit de même que de faire des invocations, des du'as, dans une langue étrangère. Hein, il considère que le madhhab al-maliki, ils interdisent ça pour celui qui connaît la langue arabe. Parce que l'arabe, c'est la langue de la religion. C'est la langue de l'islam. Donc, il n'est pas permis à quelqu'un de faire des prières ou des invocations ou des du'as dans une langue autre, alors qu'il a la capacité de faire ça en arabe. Il dit وكذلك لا يحلف بالعجمية والحلف معناه القسم ولا يكون الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته بأحد حروف القسم مثل والله وبالله وتالله فلا يحلف باللفظ الأعجمي وهو يحسن اللغة العربية لأنه إذا فعل ذلك تشبه بالأعاجم. Donc le cheikh il dit donc quelqu'un ne doit pas non plus dans le madhhab al-maliki, quelqu'un ne doit pas non plus faire un serment ou jurer dans une langue autre que l'arabe. Et al-half en arabe ça veut dire le fait de jurer, al-qasam. Et donc il dit qu'il n'est pas permis de jurer excepté par Allah et également d'utiliser la façon dont les Arabes utilisent pour jurer, c'est-à-dire d'utiliser les lettres qui sont employées par les Arabes pour jurer. Le waw, le ba, le ta, hein, wallah, wabillah, watallah, ça c'est les lettres qui sont employées par les Arabes pour jurer, pour faire un serment. Et il dit que il ne doit pas jurer par, des termes étrangers, hein, dans une langue étrangère. Alors qu'il maîtrise, il connaît l'arabe. Il dit parce que sinon il limite les non-musulmans. Sinon il limite les non-musulmans. Il dit واستشهد بالأثر الوارد أن عمر رضي الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم. ومعنى رطانة الأعاجم التحدث بكلامهم ولغتهم. والأعاجم جمع أعجم وهو كل من لم يكن من العرب لأن في التحدث بلغتهم تشبها بهم من غير حاجة ومعنى خب يعني ناقص لأن اللغة العربية أكمل منها فهي لغة القرآن والسنة ولغة المسلمين فلا ينبغي أن يعدل عنها إلا إذا كان لا يحسن العربية إذا كان لا يحسن اللغة العربية فإن عدل عنها فإن هذا نقص وخلل وهو خداع أيضا لأنه إذا تكلم مع رجل عربي بلغة أعجمية لم يفهم قوله فلا ربما قال كلاما يسيء للسامع وهو لا يشعر بذلك. Donc le cheikh il a dit, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le cheikh il a dit donc qu'il a mentionné dans Al-Mudawwana comme exemple, hein, comme témoin de ce qu'il a établi, de ce qu'il a expliqué par rapport au fait de ne pas utiliser des langues étrangères. Il a mentionné une parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dans laquelle il interdit de parler dans des langues étrangères, c'est-à-dire lorsque quelqu'un parle l'arabe, de préférer parler une autre langue que l'arabe. Hein, il dit que ça c'est, hein, que c'est quelque chose que Omar il a interdit. Et le terme ar-ratana, il dit c'est le fait de parler dans une langue ou dans une langue quelconque. Et al-a'ajim, c'est le pluriel du mot a'jam. Et a'jam, ça comprend toute personne qui ne parle pas l'arabe. Hein? Toute personne qui ne parle pas l'arabe ou qui n'est pas arabe, il est considéré comme ajam, c'est-à-dire étranger ou non arabe. Et il dit que ici, le fait de parler dans une autre langue que l'arabe, sans qu'il y en ait un besoin réel, il y a dans ça une imitation de ces gens-là. C'est comme vous avez beaucoup de gens aujourd'hui dans les pays musulmans qui sont un peu complexés par rapport aux Occidentaux, puis par rapport à l'Europe, et ils veulent à tout prix montrer qu'ils connaissent l'anglais ou le français. Hein? Parce que le fait de parler anglais ou français, pour eux, c'est comme une sorte de prestige. Donc quand ils vont parler français, ils vont montrer qu'ils savent l'anglais, hein, ou une langue européenne quelconque, et puis c'est comme si c'est quelque chose qui leur donne une certaine valeur, un statut, hein, social. Même que dans les pays musulmans, souvent les gens ils vont envoyer leurs enfants dans des écoles françaises ou dans des écoles anglaises ou dans yani. Pourquoi? Parce que surtout les gens qui ont de l'argent dans ces pays-là, les classes sociales un peu plus riches, ils vont envoyer leurs enfants dans ces écoles-là parce que pour eux, ce sont ces langues-là qui permettent, hein, d'obtenir un avenir, hein, et qui a un certain prestige à la personne qui la connaît, cette langue. Et j'ai vu même des fois une fois j'étais en Jordanie et j'étais dans un autobus et j'ai vu que il y avait un homme avec sa femme et ils avaient un jeune enfant avec eux, peut-être 5-6 ans, et ils le forçaient à parler anglais en disant non, parle anglais. Et c'est ce genre de complexe là ça existe même chez les non-musulmans. Je sais que par exemple certaines familles haïtiennes, lorsqu'ils sont par exemple au Canada par exemple, bon, ils refusent de parler à leurs enfants en créole parce que pour eux c'est comme une langue qui va les empêcher de s'épanouir dans la langue française s'ils l'apprennent. Donc ils font exprès pour uniquement parler à leurs enfants en français. Donc c'est des exemples comme ça. Il y a la même chose aussi chez les musulmans. Et ça c'est dommage, hein. Et il y a aussi beaucoup de différents peuples musulmans qui ne sont pas arabophones à la base, c'est des peuples qui parlent d'autres langues que l'arabe, et ils ne vont pas par exemple inciter leurs enfants à apprendre l'arabe, plutôt ils vont les inciter à apprendre l'anglais, à apprendre le français, à apprendre des langues européennes. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme on a dit tout à l'heure, pour eux c'est, hein, c'est pour leur procurer une éducation qui va donner plus de prestige, tu vois, pour leur avenir aussi et tout. Donc, et pour l'arabe, c'est comme si non, c'est pas important d'apprendre l'arabe, hein. Celui qui apprend l'arabe, c'est seulement celui qui va faire des études religieuses, des études islamiques, et le reste, c'est pas obligatoire ou c'est pas important pour eux de connaître l'arabe. Donc ça c'est vraiment grave, et c'est ce qui fait que dans certains pays même il y a même une sorte de comment on pourrait dire de brisure même entre la société, entre les personnes qui occupent les postes et les positions de décision et les postes les postes clés dans la société, parce que j'ai vu ça surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et même dans certains pays autres aussi, où les gens qui ont fait les études françaises, eux ils vont aller après en Europe et ils vont apprendre dans les universités européennes ou américaines ou autres. Puis ils retournent dans leur pays et puis ils prennent les postes les plus importants et ils vont avoir de plus d'influence, et malheureusement ils n'ont presque rien appris de l'arabe ni de leur religion. Tandis que ceux qui ont fait des études arabes, eux, ils vont partir par exemple en Égypte ou dans les pays du Golfe, au Moyen-Orient ou en Arabie Saoudite pour faire des études islamiques. Puis ils reviennent dans leur pays et yani, ils n'ont pas beaucoup d'options, pas beaucoup de portes qui s'ouvrent à eux. Et le problème qui découle de ça par la suite, c'est que, étant donné qu'eux, ils ne connaissent pas par la suite les langues européennes, eh bien, ils n'ont aucun moyen d'éduquer la classe dirigeante et d'éduquer aussi les gens qui ont des postes clés et des situations et des positions d'influence dans la société, ce qui fait que cette catégorie de la société qui a le plus de richesse, le plus de pouvoir, eh bien, elle est ignorante de sa religion à cause du fait qu'elle ne connaît pas la langue du Coran, de la Sunna, et elle n'est pas capable. Et les gens qui ont la connaissance de la religion n'ont pas le langage qui leur permet de transmettre ou de communiquer, hein, à ceux-là le message de l'islam. Malgré que parfois, ils peuvent tout de même comprendre les langues locales et les langues traditionnelles, parce que beaucoup de ces prêcheurs-là, ils traduisent d'habitude à leur population dans les langues traditionnelles. Mais la classe, ces classes qui ont étudié en français, c'est comme si probablement qu'ils ne veulent pas, disons, ils ne donnent pas d'importance à une éducation ou à un enseignement qui est donné dans les langues traditionnelles de leur pays. Peut-être qu'ils regardent ça peut-être avec, ou d'une façon peut-être avec mépris ou autre. Allahu a'lam. Mais de toute façon, il est certain que les prêcheurs, hein, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou autre, ils devraient, s'ils ont appris la religion, essayer de faire un effort pour connaître également peut-être une langue européenne, au moins le français ou l'anglais, pour être capable de prêcher la religion à cette catégorie de la société-là. Et aussi, les gens qui ont fait des études françaises ou anglaises, ils devraient faire un effort aussi pour essayer d'apprendre l'arabe, pour essayer d'approfondir leur compréhension et leur connaissance de la religion musulmane, pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre, hein, et que les gens ne soient pas forcés. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là, c'est que, étant donné qu'ils ne parlent que le français, hein, et qu'ils ne comprennent pas l'arabe, les seules personnes vers qui ils se tournent pour comprendre ou essayer de comprendre l'islam ou la religion, c'est des gens comme Tariq Ramadan, par exemple, hein? Des prêcheurs, il y en a avec des idées, il y en a des frères musulmans ou bien des groupes qui ont dévié de la sunna. Donc le résultat, c'est que ces gens-là, s'ils rentrent dans l'islam par les voies de ces prêcheurs-là, eh bien, ils rentrent dans l'islam avec une compréhension qui est falsifié, qui est déformé. C'est ça le danger de ça. Naam. Donc, ayant dit ça maintenant, on va terminer juste cette citation, ou ce paragraphe plutôt. Le Cheikh, il dit que, donc, dans le Madhhab al-Maliki, ils ont donc cité cette parole de l'imam de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a interdit de parler dans les langues des étrangers, c'est-à-dire des non-musulmans parmi les A'ajim, lorsque quelqu'un parle arabe et lorsque ce n'est pas nécessaire, hein, lorsqu'il n'y a pas un besoin pour ça. Et il considère que ça, c'est quelque chose qui diminue la personne. Il dit pourquoi? Parce que la langue arabe, elle est plus parfaite, elle est plus complète que ces langues-là. Et c'est la langue du Coran et de la Sunna, et c'est la langue des musulmans. Et il n'est donc pas correct qu'on remplace cette langue par une autre langue. Et ça, c'est pour celui, bien entendu, qui yani, parle arabe. Tandis que celui qui ne parle pas l'arabe, bien entendu, il a une excuse. Mais celui qui parle arabe et qui préfère parler une autre langue, hein, comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans certains pays, hein, ils sont tellement fiers de parler une langue étrangère comme une langue européenne que quand ils sont entre eux, eh bien, au lieu de parler leur langue, ils parlent la langue anglaise ou française parce qu'ils pensent que ça, c'est quelque chose qui leur donne un certain respect ou un prestige. eh bien, il y a dans ça un manquement et une faiblesse. Et vous savez que, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a expliqué que même dans la langue, la langue qu'on parle, elle a un effet sur notre tempérament, sur notre personnalité, sur notre cerveau, sur notre façon de réfléchir, sur notre façon de penser. Hein? Et vous pouvez facilement voir ça lorsque vous passez d'une langue à l'autre, ou lorsque vous passez même d'un niveau de langue à un autre. Hein? Comme si, par exemple, quelqu'un il va parler, par exemple, même dans la langue française, il y a différents niveaux de langue. Si quelqu'un il parle français, comme par exemple, qui parle avec l'accent des ch'tis du Nord, hein? Et quelqu'un qui parle avec l'accent parisien, c'est pas le même niveau de langue. Hein? Et la même chose quand on parle par exemple en français, puis quand on parle en créole. C'est différentes mentalités et différentes façons de s'exprimer, différentes même façons de penser qui sont reliées à la langue. Donc lorsque quelqu'un parle avec la langue du Coran, ça c'est le niveau le plus élevé, hein, de noblesse que quelqu'un peut atteindre. Parce que la langue arabe, c'est une langue, en particulier la langue du Coran, c'est une langue noble. Hein. Et donc c'est comme quelqu'un par exemple parle en anglais, et il parle avec le même niveau de langue que Shakespeare, par exemple. Hein? C'est pas la même chose que quelqu'un qui parle avec un anglais de la rue. Donc le niveau de la langue de la personne va élever aussi son niveau. Comment les gens la regardent, comment les gens vont lui montrer un respect. Et ça a une importance. Et la langue arabe, justement, étant donné que c'est la langue du Coran, c'est la langue de la Sunna, eh bien, c'est le plus haut niveau de ce genre de choses-là. Et donc, celui qui parle une langue étrangère alors qu'il peut parler arabe, hein, et qu'il a la capacité, alors ça, c'est un manque, une faiblesse, hein, une déficience en lui. Et il dit, c'est même une sorte de trahison. Il dit, parce que lorsque quelqu'un qui est arabe, arabophone, il parle avec une langue étrangère à quelqu'un qui n'est pas comprise par les autres, peut-être qu'il va lui, il dit ça c'est un mauvais comportement, parce que peut-être la personne va dire quelque chose de mauvais que les gens qui écoutent ne peuvent pas entendre, et il va donc dire des insultes ou des mauvaises paroles sans que les gens s'en aperçoivent, hein. Donc on va s'arrêter à ce point ici aujourd'hui. Malheureusement, on peut pas aller plus loin que ça parce que le temps entre le Maghrib et l'Isha, il est pas très long. Donc on continuera le prochain cours inshallah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.